Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 36e émission de cette année 2024, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène qui est à l'animation.
Voilà, et nous avons... Sandrine Malika dans le studio, bonsoir.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Hélène, bonsoir Sylvie, bonsoir cher
Freddy.
Freddy. Et nous avons Freddy invité qui est là, bonsoir, bonsoir Freddy Gomez.
Bonsoir.
Alors, l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, émission tradeunionfemmeslibres.blogspot.com. On peut réécouter les émissions, avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, 4 temps, féminicide par compagnon ou ex, un opus poétique avec Nathalie Quintin, Riou et Alain Eludu, tous les deux, évidemment, poètes. Une femme âge à Claire Ozias, si on écoute Tiffendé, une femme âge à Claire Ozias, qui est décédée le 6 août. Et on aura donc l'intervention de Freddy Gomez et de Mohamed El-Kébir, en plus, évidemment, d'extraits des émissions auxquelles elle a participé. Et puis on terminera, avec le temps qui nous restera, par les informations, les communiqués, les rendez-vous. On démarre par les féminicides par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Sur la page de féminicide par compagnon ou ex, sont recensés dans les médias les féminicides commis en France dans un contexte conjugal. 82 féminicides ont été repérés depuis le 1er janvier 2024. Le 79e, jeudi 17 octobre à Momie, dans les Pyrénées-Atlantiques, une femme, 45 ans, a été poignardée à mort par son compagnon, 52 ans, qui s'est suicidé ensuite par pendaison. le couple était en instance de séparation. Ce sont les enfants qui ont découvert les corps en rentrant de l'école. Elle était mère de 3 enfants. Le 80e, samedi 19 octobre, à Trélissac, en Dordogne, une femme a été abattue avec un fusil de chasse par son mari, 90 ans, à leur domicile. L'homme aurait ensuite prévenu les forces de l'ordre par téléphone avant de se suicider en retournant l'arme contre lui. Il a également laissé une lettre où il reconnaît les faits. C'est un féminicide. 81e féminicide. Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre, au port, à La Réunion, une femme de 34 ans aurait été mortellement poignardée par son compagnon dans sa voiture. Ensuite, il aurait tenté de se suicider avec la même arme. Ce sont des proches de la jeune femme, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, alors qu'elle leur avait confié ses enfants pour la soirée, qui ont signalé sa disparition. Puis au cours des recherches, la gendarmerie a découvert la voiture de la victime dans laquelle le corps de celle-ci était partiellement dissimulé sous un pare-soleil. À ses côtés, son compagnon était conscient mais grièvement blessé au cou. Un couteau a été retrouvé à ses pieds. L'homme a été transporté à l'hôpital. Il est placé évidemment sous surveillance policière et il y a une enquête qui est ouverte. Le 82e féminicide, dimanche 20 octobre à Rouen, Seine-Maritime. Une adolescente, 17 ans, a été poignardée à mort par son ex-petite amie, 22 ans, puis a pris la fuite. Il a été interpellé à la gare Saint-Lazare à Paris alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport pour quitter le pays. Il était connu de la justice. Et une enquête aussi a été ouverte. Nous les citons, nous ne les oublierons pas, nous pensons à leurs enfants, à leurs familles, à leurs amis et proches et à toutes ces existences dévastées par le terrorisme patriarcal, conjugal et familial, par ces crimes machistes perpétrés dans une indifférence médiatique, politique et sociétale généralisée, révoltante et complice. Le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
La poésie sauvera le monde, écrivait Dostoïevski. Alors si la poésie pouvait sauver le monde, enfin la beauté sauvera le monde, hein, écrivait Dostoïevski. Je ne sais pas si j'ai dit la beauté, la poésie, parce qu'en fait la beauté, la poésie, quelque part, il y a des similitudes. Donc si la poésie pouvait sauver le monde, vœux pieux hein, sur cette onde. Alors je vais en fait lire des extraits d'abord de Nathalie Quintin-Rioux, qui a publié aux éditions L'Étoile des Limites un recueil intitulé Pommelé. Je vais vous laisser découvrir à l'oreille son écriture et ainsi faire ce voyage en poésie. Chambre claire, papier grisé, Açores. Le mont Picot fait penser au mont Fuji, 7 heures du matin. Le soleil levant se mire en lui, entre prose et poème, entre poèmes et des zodiaques, sortent un à un, remplis de vacanciers, vêtus de kawaii rouge. Ils sont assis en rang par quatre, 4 x 3 ou 4 x 6. Je songe à la 6e B d'un collège très privé. On va voir des dauphins et quelquefois un cachalot charitable, peut-être rimbaldien. Les nuages, au sommet du mont Picot, témoignent. Il y eut là irruption. Des bateaux de pêche sortent simplement pêcher. À la pointe de Picot, un petit mont fait sourire. Sur le balcon, l'ordinateur est allumé. Laurence écoute le râle des puffins cendrés. On dirait des grenouilles empêtrées dans les élastiques de leur maillot de bain. Le mont Picot, le mont Fuji, Okusai, Cézanne. Des baleinières repeintes à neuf fendent les eaux, les jeunes gens rament de bon cœur. Entre passé révolu et demain, aux beaux muscles, il y a régate dimanche. Cher mon Picot qui nous répondra. On lit des choses faciles qui emportent comme le voyage, le vent d'une vague. Le mont Fuji fera-t-il penser au mont Picot ? Alors un autre. Nord-nord, nord-finnois. De là le pont des bouleaux, de là les bouleaux un lac, de là le lac un pont, de là, ici, de là, il était une fois. Un pays où le jour faisait voile et la voile faisait jour. Il était une fois un monde où les quatre dimensions tramaient le point d'Amur. Il était une fois, once upon a time, un royaume, une allée qui grandissait à mesure de nos pas. Il était une fois, Oulipa Keran, un pays où les regards précédaient la peur. Tourne, tourne maintenant, la clé de contact. La peine plafond s'était faite plancher en chaîne ajourée, comme on y dansait bien, comme on y dansait bien. Ceux en dessous entendaient des claquements d'or, ceux au-dessus entendaient des cliquetis d'os. Par ailleurs, il y avait le ciel. Le doux glissement dans la neige claire, grelot tintinabulant, comment? Quand où s'est-il retourné? Ah non, mort sciant les dents, douleur cuisante, on tire le dur traîneau. Chère marquise, vous tournez, tournez, l'espagnolette. Le château n'est plus que fenêtre. C'est un 78 tours pris de folie. Les feuilles s'envolent, on court, on rit. Visage éparpillé, chère joue rouge cerise. Carnavalette, mobile, mobilier, champ de la bergère, rue de la ruelle, ciel. Des gouttes grisées, grisantes, entre les raies d'avril, mouillent votre diapre de robe aux prunelles. Ni un, ni deux, votre bigarré regard poudroie, l'âme que nous eûmes, eu, que. Tu touches à l'extrême, du sommet de l'extrême montagne, entre la paume et la poudreuse, flatter l'air, flanc frémissant du temps, mais qu'est-ce, à la pointe une sonnette, viendrait-elle? Extrême, extrême, extrême. Faut-il tendre vers les extrêmes? Alors, je vais passer à l'autre recueil. Donc, je rappelle le titre, Pommelé, de Nathalie Quintin-Rioux, L'étoile des limites, qui a sa façon bien à elle de jouer avec les mots et de nous apporter son univers à elle. Ici, il s'agit de L'allure des chemins, pour titre, paru également à l'étoile des limites, d'Alain Eludu. Alors, pour Alain, je vais juste raconter, avant de commencer à lire des extraits, qu'en fait, il écrit sur des petits carnets, paraît-il. Enfin, paraît-il, c'est vrai, hein, c'est pas, je n'invente pas. Donc, il écrit sur des petits carnets à carreaux Rodia, numéro 13. Un peu partout, enfin, quand ça lui prend, ça peut être dans la rue, métro, parc, où l'inspiration, j'imagine, le saisit. Et pour lui, la poésie, dit-il, c'est le moyen d'être au monde. Parce qu'elle nomme avec précision la relation aux gens, aux choses, au ciel, aux vivants. Et c'est elle qui oriente notre pensée, qui permet de voir par-dessus notre épaule ce qui nous entoure. Ce sont voilà, ces mots à lui. Alors effectivement, dans ce recueil, on entre comme ça dans différents univers. Ben, il y a quelque chose de très simple, mais en même temps, on est assez saisi par cette espèce de précision et puis voilà, enfin on voyage aussi autrement, et il y a de l'intériorité. Enfin, là c'est pareil, je vais lire pour qu'on se fasse soi-même son appréciation, ou ben, j'espère pas son dépréciation, mais plutôt son appréciation, parce qu'après c'est toujours suggestif, hein, ces histoires de poésie. Généreuse, oui, chaque poème a un titre. Généreuse. L'ombre sans souci vient nous observer au plus près. Elle tourne autour de nous, manière de se répandre. Vois cette langue généreuse qui lèche ton corps. Faudrait-il lui dire non quand elle te flatte? Mystérieuse, enfin, on ne sait d'où elle vient, ni quelle est la menace. La patience. Tout ce passé qu'il aurait mieux valu taire, renoncer à le voir exploité par ma mémoire jamais tranquille. Être enfin libéré comme ces herbes folles ou ces asphodèles qui poussent le long des pentes et frémissent sous le vent, tandis que le soleil plus bas s'écrase sur ma joue. Asphodèle. D'elle, j'envie la patience ou l'insouciance d'être au bord des enfers. L'or du jour. Le scintillement du jour est trompeur. Il s'appuie sur des murs qui ne sont pas encore bâtis. Alors le souffle se perd dans la buée des marches. À quoi bon l'horizon s'il ne peut envisager l'autre côté de la terre? Et qu'attendre des voiles si elles suffoquent dans le vent? Supplique. Viens, nous gagnerons ce qui nous fit défaut. La beauté, l'éloquence, la jeunesse, et la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Notre muette présence au monde. Les mots éveillent des images. Je vois un lac, une cabane en bois, des arbres tout autour, et j'entends le cri d'un oiseau qui traverse l'espace. Les mots ne sont-ils qu'éveilleurs d'images et de sens? Imperceptiblement, ils évoquent des paysages précis et passent en emportant leur lourd secret, notre muette présence au monde. Et l'impatience. C'est le titre. J'étais toujours assis dans la tente, il ne se passait rien. Peut-être avais-je besoin de plus de temps pour voir comment court le monde, ma vie, les arbres, le vol des papillons, la légèreté de vivre et le poids de ce qui me retient. Les mottes. Je sentais la terre lourde des brumes qui s'attardaient encore longtemps le matin, et je mesurais le travail souterrain des taupes. En silence, elles avaient envahi le jardin de mottes, défigurant l'espace que j'avais espéré préserver. Mais l'envie était trop forte, l'air trop chargé de vigueur printanière, pour que la terre demeurât silencieuse. De toutes parts, montaient les appels à la vie, et je devais me résoudre à crotter mes chaussures pour me griser de leur parcours mystérieux. Ah oui, ça les taupe. Ce qui tient le monde, car me surprennent les jours en équilibre sur le monde, que nos épaules retiennent la chance de pouvoir nommer ce qui vient s'échouer et en décrire les manifestations. Mais quel regard porter sur les statues aveugles, figées de sourires amers, la mélancolie de nos fronts soucieux. Les hirondelles. Juste au moment de commencer, les choses empirent. Ça pourrait être une loi. J'entendais des cris d'oiseaux, des hirondelles, qui semblent toujours en train de fuir un danger imminent. Et j'étais prêt à les décrire avec les mots que je connais, mais une avalanche de conflits soudains m'envahit. J'eus regarder à droite et à gauche, rien ne semblait pouvoir soulager mon angoisse. J'étais là, effondré sur mon carnet, incapable d'aligner des mots sur les pages quadrillées du même bleu que le ciel, tandis que dans ma tête défilaient les images à l'écrit, comme ceux des hirondelles. Sont des poèmes un petit peu comme des tableaux, des petits tableaux, des petites peintures. D'ailleurs, Alain et Ludu est peintre, ou était peintre. Je ne sais pas s'il continue encore, mais il a eu cette rencontre avec la peinture, et dans son écriture, en fait, ça en est comme imprégné. Lent retour. Les champs se découvrent tout à coup. Pourtant, le tremblement imperceptible du sol n'y est pour rien. Au loin, passent des voitures, et les troupeaux rentrent nonchalamment le soir. Là, des corbeaux remplacent les pigeons, mais les feuilles au sol sont les mêmes qu'ailleurs. La défenestration du ciel annonce septembre. Les bornes seront bientôt franchies. Un dernier pour la route. Un dernier pour la route. Un dernier pour la route. Tentative d'effraction. Déjà parti et encore sur le bord, entre deux moments du jour, comme l'obscurité vacille, une tentative d'effraction vient écrire l'hésitante musique. Les couverts de la nuit ne sont pas ramassés. Ils traînent, accompagnés des miettes qui sèment les regards, déshabillés de sens. C'était donc L'allure des chemins, publié à L'Étoile des Limites d'Alain et Ludu, et le précédent, pour rappel, Pommelé de Nathalie Quintin-Rioux, toujours aux éditions L'Étoile des Limites. Et sur ce, poésie, au revoir.
on passe au temps consacré. Alors, consacré, ça aussi, c'est un terme sur nos antennes qui ne sonnent pas très, très, très bien. Voilà, mais on va parler de Claire Ozias. Claire Ozias est décédée le 6 août 2024. Avant que je ne parte en vacances, je l'ai appelée le 15 juillet. Elle m'a dit qu'elle ne me reverrait pas plus. J'ai tenté de lui dire que sa consultation médicale du 23 juillet devrait lui laisser un espoir. Mais elle était lucide. Claire l'enrageait, Claire la libre, Claire notre amie, la Camarde l'a emportée. Claire Ozias a co-animé sur Radio Libertaire deux émissions. L'une sur l'histoire du mouvement libertaire, l'autre au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. Et elle a été très souvent notre invitée dans l'émission Femmes Libres. Alors pour les dernières années, parce que je ne suis pas allée chercher trop loin, elle était venue nous parler de la pensée politique d'Emma Goldman. Elle nous a présenté aussi des livres, ses livres. Le Paris révolutionnaire, ça c'était en décembre 2019. La grève des... Alors, le Paris révolutionnaire, c'était une réédition augmentée, puisque la première édition, c'était 2001. La grève des ovalistes, c'est aussi une réédition. Et là, c'était en février 2019. Un fait d'été sur son voyage après la prison, après le décès de son compagnon en prison. Et là, c'était en 2020, au moment où le livre est sorti. Elle nous a parlé aussi des communes de 1871 dans diverses régions de France. Quand on dit France, c'est aussi les dom-tom. C'était en mai 2021. Et puis la dernière fois qu'elle est venue à notre antenne, c'était pour parler du génocide des Tziganes avec un ouvrage qu'elle a réédité aussi, Samuda Ripen, et ça c'était en octobre 2022. Ce soir, nous avons invité Freddy Gomez, nous aurons un enregistrement de Mohamed El-Kébir, des extraits de deux émissions de Femmes Libres dans lesquelles, pour l'une, Claire se présente avant d'aborder les communes de 1871 et pour l'autre, elle parle du génocide des Roms. Nous l'entendrons aussi dans « Ni Dieu ni Maître » de Tancrède Ramonet, le troisième documentaire intitulé « Des fleurs ou des pavés » 1944-1968. Reprenons quelques propos de Sylvain Boulouk. À la lecture ou à la relecture de quelques-uns de ses ouvrages, beaucoup comprendront la perte que représente sa disparition. Avec tristesse, ses amis n'entendront plus ses remarques souvent pertinentes, parfois un peu rugueuses, car Claire n'avait pas la langue dans sa poche. Elle pouvait même, parfois, avoir la dent dure. Mais ses réflexions ont toujours été marquées par une connaissance approfondie des sujets auxquels elle s'intéressait. Claire avait un caractère entier, parfois un peu sectaire. Quand on passait outre, il y avait une personnalité vive, passionnée, pétrie de connaissances, aussi diverses et variées qu'approfondies. Elle débattait toujours pour faire progresser la réflexion et prolonger une idée, répondant aussi à sa conception et à son exigence de liberté individuelle comme intellectuelle. Voilà, je ne veux pas tout lire le texte de Sylvain, mais on peut le retrouver sur le site du Monde Libertaire. Freddy Gomez, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, alors nous t'avons invité car tu as connu Claire Ozias pour te présenter, mais tu reprendras s'il le faut. Hein. Tu as été correcteur d'imprimerie, tu es un militant libertaire et tu as cofondé à contre-temps une revue de critique bibliographique et d'histoire du mouvement libertaire. Et tu as écrit un très beau texte aussi sur Claire Ozias au moment de son décès. Première question, Comment tu as connu Claire?
Écoute, c'est toujours un peu compliqué de dater. Je crois qu'on s'est connus dans les années 80, quand elle bossait sur sa thèse, hein, les Lyonnais, quoi, en fait, les camarades lyonnais, les militants libertaires lyonnais. Et on s'est connus parce que quelqu'un lui avait parlé de moi, un vieil espagnol qui était à Lyon. Un vieil espagnol de la CNT qui habitait Lyon et qui avait connu en fait tous ces militants, et donc il lui a servi un peu d'introducteur auprès de plein de gens. Et moi je l'ai mis en contact avec Navel parce que j'avais une relation avec Navel qui était correcteur aussi, quoi. Qui bossait à l'UMA d'ailleurs à l'époque. Et voilà, on s'est connus comme ça de façon épistolaire. En
quoi c'était important que cette rencontre, parce que elle parlait des militants libertaires lyonnais et toi t'étais pas à Lyon?
Non, j'étais pas à Lyon, mais bon, c'était moi j'ai fait des études d'histoire, j'ai travaillé beaucoup sur ces sujets.
Ouais.
J'ai fait une maîtrise sur la Première Internationale. Et donc elle le savait, quoi, parce que bon, la relation s'est un peu, disons, établie de façon formelle avec elle, mais bon, on se connaissait, chacun connaissait à peu près des choses de l'autre et tout ça, quoi. En fait, ce personnage-là, cet espagnol, qui était important dans son travail, parce qu'il lui a ouvert des portes, qui s'appelait Jaime Padrós. Elle avait un projet sur. En fait, c'est un type qui a écrit toute sa vie, quoi, pour lui, quoi. Il écrivait des. Un militant ouvrier, hein, c'est pas du tout un intellectuel. Et en fait, donc, il y a une somme considérable de notes qu'elle a récupérées, écrites par Padrós. Et en fait, elle était sur. Ça aurait été un travail d'ailleurs colossal de réorganisation. Mais elle, ici, une des dernières choses dont on a parlé d'ailleurs, comment on fait avec les mémoires de Padrós, quoi. Donc, comme quoi, Claire, en fait, c'était une fille qui avait une vraie constance dans les. Enfin, tout le prouve d'ailleurs dans son parcours. Quand elle a commencé à s'intéresser aux Roms, elle s'est intéressée de façon permanente pendant très très longtemps. Et voilà. Après. On peut dire que je la connaissais d'avant, parce que disons que je connaissais bien son parcours, enfin bien ce qu'on pouvait savoir, quoi, puisque bon, je te parle d'une époque où rien n'avait été encore publié, Claire, l'entretien avec Mimo n'avait pas encore été publié, et tout ça. Mais bon, je...
Il y avait quelques éléments dans la presse.
Il y avait quelques éléments dans la presse, ou quelques copains qui l'avaient connu jeune, notamment parce qu'on avait exactement le même âge, quoi. Donc moi, j'étais au comité d'action lycéen sur Paris, elle était au comité d'action lycéen sur Lyon. Donc ça circulait un peu, quoi. Et donc, voilà, quoi. Après, si la première rencontre physique que j'ai eue, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'était une fête du livre organisée par Publico, qui faisait à ce moment-là régulièrement tous les ans. Je crois que c'était à l'occasion de je sais pas quoi, d'un truc, une animation municipale qui faisait des débats dans la rue et tout ça. Et alors, elle a présenté Samoud Haripen dans une rue qui était quand même relativement calme, où il y avait tantôt des bagnoles qui passaient et tout ça. Et je l'ai trouvé brillantissime, quoi, dans l'oralité, dans la transmission orale. Et en fait, ça s'est confirmé chaque fois que je l'ai vu, y compris dans des discussions de bistrot. Je la trouvais vraiment très. Voilà, après, je pense qu'on s'est pas. On s'est jamais quitté, on s'est souvent engueulé sur des.
Avec qui ne se serait-elle pas engueulé, enfin, d'ailleurs?
Je sais qu'elle pouvait être insupportable à certaines personnes, mais moi, je l'adorais, quoi. Je crois même que je cherchais. la polémique. Donc voilà, c'est une longue histoire que j'essaie de restituer dans cette dans cet hommage. Et moi, je l'ai vu la dernière fois, j'en parle là dans mon texte, je l'ai vu, je crois, 3 semaines avant son décès. On s'est vu dans un bistrot à côté de chez elle, elle avait beaucoup de mal même à se déplacer, je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle. Et sur le pas de la porte, elle m'a dit, parce que bon, j'avais prévu un truc, je partais, quoi. Donc je lui ai dit, je serai pas à Paris pendant 3 semaines, un mois, quoi. Et elle m'a dit, c'est la dernière fois qu'on se voit.
Ouais. C'était terrible, hein, quand elle disait ça, parce que... on n'a pas envie de l'entendre, quoi. Ouais. Moi, je partais en vacances, toi aussi, enfin, tu partais ailleurs. Voilà, puis on entend ça, et on se... Et d'un seul coup, on se dit, mais on ne va plus jamais la voir. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Hein? Ouais. Bon, eh bien, écoute, on va peut-être passer sa présentation par elle-même. Ouais. Hein? Et puis, quelques petits sons quand on l'avait invitée pour qu'elle nous parle des communes de 1871. Hors Paris, j'insiste bien, parce que elle insistait là-dessus. Elle avait contribué évidemment à écrire ça dans diverses revues et dans le livre qui a été consacré, enfin les actes qui ont été consacrés au colloque de 2021 pour les 150 ans de la Commune. C'était quand même un colloque aussi très important. Et elle avait écrit sur Bordeaux, sur différentes villes. On va l'écouter.
La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux.
Le 28 mars 1871, 200 000 Parisiens vinrent à l'hôtel de ville installer leurs élus. Les bataillons, tambours battants, le drapeau surmonté du bonnet phrygien, la frange rouge au fusil, descendirent par toutes les rues sur la place de la Grève, comme les affluents d'un fleuve gigantesque.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de...
Leur liberté de réunion, leur club, droit au travail et à l'égalité des salaires, l'abolition de toute inégalité entre les sexes, la reconnaissance de l'union libre.
L'hiver de 70, cet hiver de souffrance, épuré la misère en ce nouveau printemps.
Donc c'était une petite introduction et nous sommes maintenant avec Claire Ozias. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Voilà, je suis ravie de t'accueillir. Tu es évidemment déjà venue sur nos ondes en tant qu'invitée, mais je crois aussi qu'il y a quelques années, tu animais une émission. Hein.
Bon. Oui, bien sûr. Il y a même de nombreuses années, j'animais une émission, deux émissions en fait. Une, histoire et actualité de l'anarchisme.
Oui.
Et l'autre, c'était au temps de la guerre en Yougoslavie, concernant la guerre en Yougoslavie, voilà. Dans les années 90.
Oui, oui, oui. Alors, au-delà de ce que tu viens de nous dire là, comme, par rapport à Radio Libertaire, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'historienne, peut-être ?
Bon, alors oui, je suis une historienne, freelance en quelque sorte, hein, non fonctionnaire, spécialiste de l'histoire contemporaine. Ce que nous appelons contemporaine couvre le 19e et le 20e siècle, à la différence des gens qui travaillent sur les siècles précédents.
Wow.
Voilà, et donc j'ai étudié les mouvements sociaux, les révolutions et l'histoire féministe, des mouvements féministes. Voilà.
Oui. Alors, particulièrement, la grève des ovalistes, hein, avec, avec une collègue à toi, tu peux nous...
Annie Quell.
Voilà, oui, Annie Quell. J'ai oublié son prénom, là. Oui. Voilà, qui a bénéficié d'une réédition et pour laquelle on t'avait aussi interviewé. Et puis, oui. T'as fait énormément de travaux sur les Roms, hein.
Oui, j'ai travaillé de nombreuses années, plus de 20 ans, avec les Roms à la chute du mur de Berlin, en Europe de l'Est surtout.
Voilà, bon, eh ben, je crois qu'on on a dit peut-être l'essentiel, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose.
Non, c'est très bien.
Alors là, on t'invite ce soir parce que tu as collaboré au livre 1871-2021, Commune de Paris, toujours debout, un livre qui est paru aux éditions du Monde Libertaire et aux éditions de la CNT Région Parisienne, que nous avons présenté donc en janvier, et régulièrement, chaque mois, on présente une partie de ce livre, voilà, et tu as aussi écrit des articles pour Le Monde Libertaire de mai 2021, dont le dossier est consacré à la Commune, et tu participeras au colloque des 12 et 13 juin au lycée autogéré de Paris, consacré à la Commune de 1871.
Oui.
Voilà, donc on va évoquer avec toi le mouvement communaliste hors Paris, hein, parce qu'on a déjà évoqué largement ce qui se passait à Paris, sous différents aspects d'ailleurs, hein. Mais hors Paris, on ne l'a pas encore traité. Il a été établi qu'il y avait une quarantaine d'agglomérations ou de lieux, hein, qui ont connu des insurrections, de simples manifestations, que ce soit en France ou dans les régions colonisées par la France. Et, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous rappeler, pour toi, qu'est-ce que c'est que cet élan révolutionnaire qui a pu se propager autant ? Donc le resituer d'un point de vue historique, hein.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la grande nouveauté de cet anniversaire du 150e de la 150e célébration de la Commune de 1871, sa grande nouveauté au bout de 150 ans, c'est précisément de sortir de Paris pour aller voir ailleurs. Et cela est possible grâce à l'effondrement du Parti communiste mondial. Car le Parti communiste mondial, les bolcheviques puis soviétiques, avaient mis sous séquestre la Commune de Paris comme leur propriété privée en des termes éminemment jacobins. Mmh. Et il faut rendre grâce, et je le fais très volontiers, au groupe La Commune de la Fédération anarchiste de Paris d'avoir pensé à se préoccuper du mouvement communaliste en dehors de Paris pour cet anniversaire-là. Et c'est la grande nouveauté de ces 150 ans, car ceci n'a pas été possible précédemment. Bien sûr, il y a des prémices. Nous possédions le livre de Jeanne Gaillard, depuis quasiment 50 ans, qui s'appelait « Commune de Paris, Commune de province », et qui était à peu près notre seule source sur ce qui s'était passé en dehors de Paris. Nous possédions également le livre de Fernand Rude, grand historien du mouvement ouvrier lyonnais, concernant la Commune de Lyon et l'intervention de Bakounine. Mais ce livre est un peu critiqué pour certaines imprécisions. Et puis c'est tout. Nous avions, c'était tout au point de vue des connaissances majoritaires. Et donc, à l'occasion de ce 150e anniversaire, de nombreux observateurs ou militants ou professionnels se sont préoccupés du mouvement communaliste, car c'est un mouvement communaliste, ailleurs qu'à Paris. Alors, ce mouvement communaliste, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'insurrection contre la direction jacobine du pays pour l'abolition de la monarchie en faveur de la République. Donc, nous avons affaire à un mouvement qui est fondamentalement politique et pas du tout géographique.
Voilà, quelques mots de Claire pour présenter quelque chose qu'elle va évoquer dans cette émission. Donc c'était le 12 mai 2021 qu'elle va présenter sur une petite heure. Évidemment, on ne pouvait pas, nous, aujourd'hui, remettre toutes les émissions bout à bout, parce que là, il nous aurait fallu quelques jours, quoi. Freddy, puisque tu es là, est-ce que tu veux réagir à ce qu'elle vient de dire?
D'abord, c'est... il y a l'émotion, quoi.
Oui.
Parce que c'est vraiment clair, quoi. Et en plus, sur ce sujet là, sur le texte dont elle le sujet dont elle parle, en fait c'est le dernier travail, parce qu'en fait j'ai repris sur le site à contretemps les notes qu'elle avait un peu, qui étaient un peu en vrac et qu'elle avait élaborées en 2021. Il y a eu un gros, énorme travail de réécriture avec Claire. Donc, on a passé énormément de temps sur ce texte qui a été publié et qui, je crois, est effectivement très, très intéressant. Elle apporte des éléments très importants du point de vue historiographique. Donc, il y a un télescopage entre le fait que je l'entende, le travail qu'on a fait en 2023, donc c'est l'année dernière, hein, ça nous... Mmh. Et voilà, quoi, donc, ouais. C'est l'émotion, quoi, c'est...
Alors, le travail qu'elle avait élaboré, elle le disait très bien dans l'émission, c'est que... elle est très précise, Claire. Quand elle dit quelque chose, elle en est sûre. C'est-à-dire qu'elle a croisé des informations au point que, voilà, c'est à peu près la vérité historique qui lui convenait à ce moment-là, mais c'est sa précision à chaque fois. Et quand elle avait pas assez d'informations, eh bien, elle le disait.
Oui.
Voilà, elle le disait. C'est-à-dire que elle brodait pas pour se dire bon allez, il faut parler de telle ville, je vais reprendre un peu ce qui a été écrit à droite à gauche et puis je vais faire quelque chose. Non, elle le retravaillait sur un plan avec une méthode historique. Mmh. Hein, et du coup, quand elle avait pas, elle avait pas et elle le disait. Et c'est cette honnêteté là. Je pense qu'elle est intéressante aussi chez elle, parce que elle le disait directement, quoi. Les historiens, c'est leur méthode. Normalement, ils écrivent que à partir de documents ou en écoutant, en enregistrant des interlocuteurs. Mais c'est leur méthode. Mais elle nous, quand elle parlait, elle exposait en plus sa méthode. Mmh. Voilà. Et du coup, c'était peut-être l'idée qu'elle avait de nous faire grandir, quoi, quand on discutait avec elle. Mmh. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, c'est ça. En plus, il y avait chez elle une espèce de grande humilité, parce que, par exemple, c'est flagrant sur ce texte. C'est-à-dire qu'elle a découvert des choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de localiers et d'histoires qui ont été faites comme ça par des gens qui s'intéressaient à leur ville, ou à leur quartier, ou c'est flagrant sur la commune de Bordeaux, où il n'y avait pas grand-chose, sur celle d'Alger, où il y avait encore moins, et tout ça. Et donc, elle met ces gens en valeur qui ont fait un travail, après avoir vérifié, elle, croisé des sources, et tout ça, parce que c'était une historienne, hein, en fait. Ouais. Elle bossait sérieusement sur ça. Bon, par exemple, moi, j'ai découvert plein de gens. J'ai fait des recherches, d'ailleurs, sur Internet, sur ces références, y compris pour vérifier des orthographes de noms et des trucs comme ça. Et oui, mais elle était du côté des humbles, mais elle était humble aussi, elle, dans son travail, ce qui est assez rare. Parce que ça contredit... l'ego, quand même. Voilà, oui. Je suis d'accord.
L'ego des universitaires bontins, quoi. Ouais,
c'était une universitaire atypique. Hein.
Voilà. Elle n'était pas. Elle avait le niveau d'une historienne, mais elle refusait ces universitaires bontins qu'il fallait. Elle disait, de toute façon, ils s'engagent dans l'université pour faire leur place, quitte même à développer des trucs qui n'ont aucun intérêt, mais d'une façon originale pour se faire repérer et puis pouvoir avancer leur carrière.
Oui, non, mais ça c'est sûr. Il y avait un grand mépris pour beaucoup d'universitaires réputés, mais en même temps, elle était consciente. Et en fait, sa carrière a été brisée aussi, oui, par avance. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a dit, très très jeune, qu'elle serait tricarde, quoi. Qu'elle n'aurait jamais rien à l'université. Et en fait, bon, elle a une thèse, hein, donc elle a passé une thèse avec jury et tout ça, mais... Après, bon, tout ce qu'elle a fait sur... alors ça, je connais moins, mais je sais que c'était une de ses passions. Toi, tu dois connaître plus que moi. Sur les Roms, elle a fait un travail remarquable, en fait, du point de vue qui est un travail universitaire, quoi.
Absolument, absolument. Ben, il n'y avait pas grand-chose sur les Roms qui fasse parler les Roms. Mm. C'était, il y avait beaucoup quand il y avait des écrits, c'était plutôt c'était pas anthropologique, c'était pas c'était que sociologique, mais c'était pas au cœur de ce que vivaient les Roms, hein. Et ça, elle le disait bien, que elle est allée vivre avec les Roms. Elle a passé énormément de temps. Bon, et c'est vrai que comme elle est restée, je sais pas, à écrire sur les Roms pendant 20 ans, elle en a rencontré, quoi.
Ouais, ouais.
Et moi, je me souviens d'avoir... alors, je n'utilise pas le terme de corriger, mais je ne sais même pas quel terme utiliser sur le livre qu'elle avait fait, sur qui s'appelle « Cœur des femmes tziganes », je crois, hein, c'est ça. C'est Thierry Poré, correcteur, qui me dit... Écoute, je ne sais pas quoi faire de ce texte, parce que ce sont des femmes qui parlent, voilà, du tout venant, voilà, mais qui ne parlent pas un français terrible. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est un gros livre.
Ah hein. Oui, c'est beau.
J'ai passé plus d'un mois, je travaillais, donc tous les soirs, je lisais ça, et j'ai essayé, et évidemment... Claire m'a beaucoup remercié, mais j'ai essayé d'écrire pour qu'on puisse le lire. Et non pas que ce soit dans un bon français, mais qu'on puisse le lire. C'est-à-dire qu'il y avait... J'ai essayé de faire des phrases, quoi. Quelques phrases. Et alors que c'était vraiment du décryptage, hein, direct, et elle n'avait pas réécrit en... Ouais. Du coup, c'était illisible, ouais. Mais franchement illisible. Mmh. Et Thierry Poré m'avait dit, non, on ne peut pas publier ça, ce n'est pas possible. Mmh. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, je dis ça parce qu'elle en avait écouté, elle avait enregistré des femmes, et des femmes, et des femmes, de toutes sortes, de toutes conditions. Hein. Il y avait des femmes... qui racontait le mariage, elles étaient enlevées selon la tradition, qui étaient complètement écrasées par la famille, par le mari et tout ça. Puis d'autres femmes qui avaient fait des études. On découvrait aussi que des femmes roms avaient pu faire des études extrêmement poussées, avoir un doctorat. Et puis, elle disait à la fin, mais de toute façon, ce sont des gens qui vivent comme nous. Ils sont comme nous. Il n'y a pas de différence.
J'ai une anecdote sur les Roms, là. Bon, moi, j'ai participé très activement au mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, on a fait une émission régulière sur Radio Libertaire qui s'appelait Rond-Point Jaune.
Ouais.
Je me souviens que dans les premières manifs, sur Paris, hein, moi je ne suis pas allé en province, sur Paris, dans les premières manifs, j'étais assez étonné de voir quelques drapeaux, en fait, roms, avec le hérisson et tout ça, et des types qui étaient dans le cortège, des types parce qu'il n'y avait pas de femmes, quoi, c'était des types. Et j'en ai parlé à Claire qui suivait le mouvement avec beaucoup d'intérêt, mais qui avait peur. Elle m'a dit j'ai vraiment peur d'y aller parce que c'est... et ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Et donc elle me demandait à chaque fois oh, t'as vu les Roms? Bon, c'était flagrant au début du mouvement, puis après il y en a pas eu. Et une fois j'ai vu un Rome et une Rome. et j'ai dit à Claire, ah ouais, j'ai vu une fille avec un drapeau. Elle me dit, c'est pas possible. Je dis, si, si. Et du coup, elle est allée à la manif suivante, manque de peau, elle l'a plus en vue.
Ouais. Bon, on reprendra ça tout à l'heure parce qu'il y a un petit bout sur d'enregistrement quand elle nous présente son livre Samudari Pen. Ouais. Mais là, on va écouter alors des toutes petites séquences que j'ai montées à partir donc du troisième volet, hein, je le disais tout à l'heure, du troisième volet du film, du documentaire de Tancrède Ramonet, donc 1944-1968, et je trouve que le titre est beau et correspond aussi à Claire Osias, puisque ce troisième volet, c'est des fleurs ou des pavés, voilà.
Parmi eux se fait très tôt remarquer un certain Daniel Cohn-Bendit, que l'on dit alors libertaire.
Alors là, il n'y a pas photo là-dessus. C'est un militant anarchiste, membre de la Fédération anarchiste, membre de la Liaison des étudiants anarchistes, membre de Noir et Rouge, membre de tous ces mouvements, partie prenante à part entière. Il y a cette griserie extraordinaire qui ne prend que les émeutiers et que qui n'a pas été émeutier ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Le goût de la barricade. La grande qualité des anarchistes de mai 68 a été de permettre à une ribambelle de gens que l'on appelait inorganisés, des gens qui venaient de nulle part, qui soudain émergeaient en mai 68, de leur permettre de prendre toute leur place. Et non pas de les renvoyer à l'école, au cours primaire, qu'il fallait qu'ils passent tous les échelons. Et ça a été une grande force libertaire, d'émancipation, qui a permis à chacun de prendre sa place, en quelque sorte, tout en luttant beaucoup contre les menées staliniennes de certains groupuscules, même si ce n'étaient pas des staliniens, même s'ils étaient anti-staliniens, ils avaient souvent des pratiques qui étaient peu recommandables, disons. C'est comme une chape de plomb qui explosait, et les joies de vivre, les exubérances ont repris leurs droits. Et quand les exubérances reprennent leurs droits, comme Raoul Van Eghem l'a si bien dit, bien les gens reprennent envie de vivre, le goût de vivre et le goût des audaces. Il y a une forte présence anarchiste à Lyon, c'est vrai. D'abord, il y a une tradition anarchiste à Lyon, qui est ancienne. Ça, c'est une chose. Et donc, les gens s'inscrivent dans cette tradition anarchiste, les nouveaux anarchistes. Les anarchistes de Lyon sont tous des anarchistes new look, qui ont lu l'International Situationniste et qui trouvent ça absolument formidable. Il se passe à Lyon une seule nuit de barricade, mais c'est une nuit de barricade qui est devenue en quelque sorte emblématique de mai 68 pour toute la France, car il se trouve qu'au cours de cette nuit des barricades, un commissaire de police est décédé.
Pour forcer le passage, dans la confusion, des révolutionnaires réquisitionnent un camion de chantier et le lancent sur les forces de l'ordre.
Il est lancé à 5 à l'heure avec un caillou sur l'accélérateur, en première. Il avance tout doucement, tout doucement, tout doucement, et la police a 100 fois le temps de s'écarter pour laisser passer le camion.
Mais à ce moment précis, le commissaire Lacroix, un commissaire de police, est pris d'un malaise.
Il est mort parce qu'il était présent sur les faits la nuit des barricades. Il est mort de peur, il a fait une crise cardiaque au moment de l'arrivée de ce camion. Mais il n'a pas été touché par ce camion. Donc il n'est pas décédé, écrasé par le camion. Le but était de criminaliser tout 68. Et effectivement, du fait qu'un commissaire de police est décédé, la réaction s'est emparée de cet événement pour en faire le cri de ralliement de la vengeance.
Voilà, on vient d'écouter Claire Osias nous parler de mai 68. Alors au début, elle parle d'Annie Cohn-Bendit, mais elle revient très vite, évidemment, sur ce qui s'est passé à Lyon. Et toi, tu disais hors antenne, Freddy, que le commissaire de police, il était en arrêt maladie.
Oui, mais c'est elle qui le raconte, d'ailleurs, ouais. En primaire, je crois.
Ouais.
Le gars était en arrêt maladie et culpabilisait. Et donc, il a demandé à ses supérieurs, c'était un gradé, hein, c'était oui, pas oui. Un flic de base. Mm-hmm. C'était un inspecteur ou un commissaire. Quoi.
C'était un commissaire
hein. Ouais. Et il a demandé dans sa hiérarchie qu'il l'autorise, même en arrêt de travail, à aller à la manif. Quoi. Ouais. Et en fait, il a eu un arrêt cardiaque. Quoi.
Ouais, oui. Voilà, et donc là c'était des extraits de Ni Dieu ni Maître, le troisième volet de Tancrède Ramonet, Des fleurs ou des pavés, 1944-1968. Une occasion aussi de dire que Tancrède Ramonet a fait un travail extraordinaire avec ses quatre volets de Ni Dieu ni Maître. Je sais pas, tu veux peut-être parler un peu de l'article que tu as produit sur À Contre-temps et qui s'intitule Claire Osias ou l'anarchie vagabonde. Peut-être.
C'est difficile.
Non, peut-être dire quelques éléments, je sais pas. Ou pas.
J'ai essayé de restituer quelque chose d'un peu intime dans l'article, c'est que bon, j'ai beaucoup travaillé avec Claire, mais en fait on s'est beaucoup vu aussi, parler de nos vies respectives. Elle était, moi je sais que j'ai eu quelques épreuves dans ma vie, et s'il y a une personne sur laquelle j'ai pu compter, enfin il y en a quelques-unes, mais Claire était là, quoi, elle était très attentive. Et bon, ça fonctionnait dans les deux sens. Donc j'ai voulu restituer quelque chose qui est quelque chose de qui relève de d'une certaine forme d'intimité, mais au sens large, quoi. C'est-à-dire, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des grosses fâcheries avec elle quand on a travaillé ensemble sur des projets, notamment sur parce qu'elle a été parmi 100 000 choses, elle a été aussi éditrice, quoi, puisqu'elle a monté donc les éditions Égrégore, et elle a fait un très très beau travail sur Camus, qui s'appelle Camus et les libertaires. Et elle m'avait demandé de faire une espèce de postface sur le rapport, qui était un rapport très, très charnel de Camus avec les Espagnols, avec les anarchistes espagnols. Puisqu'il a même collaboré à la presse anarchiste espagnole. Et évidemment, c'est un, donc le camarade qui s'occupait, disons, de la rédaction, disons, à proprement parler du bouquin. J'ai oublié son nom. C'est un camarade d'origine allemande qui vit à Marseille. Et en fait... Bon, il a fourni une copie énorme, et donc il y avait un problème qui était un problème de... Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, bon, déjà, le bouquin est assez gros, mais il aurait pu faire le double, donc il a fallu faire des choix et des trucs comme ça. Et à un moment, elle était absolument découragée, elle disait qu'elle voulait arrêter, et tout ça. Et bon... Je croyais que j'avais le truc pour remettre la pièce dans le jukebox, quoi. Et en fait, elle redémarrait, et quand elle redémarrait à plein. Et donc, on a sorti ce bouquin qui nous a occupé tout un été. Un autre fait d'été, d'ailleurs. Et voilà, donc, c'est ce que j'ai voulu restituer. Je pense que parce que c'est un article qui est finalement... a été, bon, ça c'est un peu les trucs d'Internet, on ne sait pas d'où ça vient, qui, mais c'est un article qui a eu plus de 5000 lecteurs en deux jours, quoi. Et j'ai reçu du courrier, quoi, des gens qui découvraient complètement Claire. Et voilà, bon, c'est... j'ai voulu garder un peu ce truc, ce rapport qu'on avait, qui était un peu mélangé entre l'intime, le... Voilà. Au lecteur de juger si j'y suis arrivé.
Ouais, ouais. En termes d'intimité, il y a deux livres où elle se livre.
Ouais.
C'est l'entretien avec Mimo, et puis c'est un fait d'été.
Ouais.
Hein, voilà, là où elle se livre. Je renvoie aussi à notre émission où elle a été interviewée pour un fait d'été, et c'était le 14... octobre 2020, mais je peux renvoyer aussi à l'émission de Christiane Passevent, Chronique Rebelle, de samedi dernier, donc le 19, où elle a rediffusé une interview qu'elle avait faite de Claire sur un fait d'été. Et quand on l'écoute, quand on la lit et quand on écoute, on comprend son chemin, quoi. On comprend son chemin de vie, son parcours de vie. Parce que c'est un parcours de vie cabossé, quand même, sur un plan, je trouve, moi, amoureux aussi. Cabossé sur un plan politique en action. Hein, je ne dis pas idéologique, mais la politique en action. Hein, puisque quand même après mai 68, il y a eu le contre-coup, et ça l'a marqué énormément. Et puis, mais cette continuité quand même idéologique de son anarchisme vivant, quoi. Voilà.
Hein. Et le fait d'été, c'est un livre, en fait, c'est un petit livre, quoi. Mais c'est... je pense que c'est un livre fondamental pour qui connaît Claire. D'abord, ça aurait pu s'appeler un passage, quoi. C'est-à-dire que là, elle passe, quoi. Elle passe de l'après 68 à la vie, quoi. En étant vraiment borderline, quoi. À un moment, elle peut basculer de l'autre côté. Elle a failli plusieurs fois basculer de l'autre côté. Et en fait, c'est un peu triste, l'histoire de ce livre, parce que... Moi, je crois que j'étais le premier lecteur, en fait, du livre. Elle m'avait filé le manuscrit. J'avais pris vraiment un coup à l'estomac, quoi. On a retravaillé un peu sur le manuscrit. En fait, il devait être édité par Rue des Cascades. Moi, j'étais vraiment... J'avais un rapport de fraternité totale avec Marc Thompson, l'éditeur. On se connaissait depuis notre adolescence, quoi. Donc, il savait quand je lui disais faut le sortir. En général, il sortait tous les bouquins que je lui ai conseillés. Il les a sortis, y compris les miens. et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a eu un vrai problème de fric à un certain moment, parce que il s'était mis en tête de sortir plusieurs livres d'Abel Pince, qui avait la particularité d'écrire toujours des gros bouquins. Et donc, en fait, il ne l'a pas publié, et elle l'a édité à compte d'auteur.
Absolument. Ouais.
Et franchement, ça méritait mieux que ça, quoi.
Ouais.
Et alors, j'ai peut-être un scoop pour Radio Libertaire, mais il est possible qu'il y ait une réédition à l'échappée, augmentée avec
bien sûr.
Et je pense que pour Claire, ce serait bien.
En tout cas, l'interview qu'elle a donnée pour Christiane Passevent est très intéressant. Je vous invite à réécouter sur Radio Libertaire l'émission Chronique Rebelle du samedi 19 octobre 2024. Alors, on va passer là peut-être au SAMU d'Aripen, hein, au génocide. C'est une interview là qui est un peu plus longue, qui fait 15 minutes. Et puis après, on aura l'interview de Mohamed. Mais là, on va passer SAMU d'Aripen. Avec Claire Osnias pour le livre SAMU d'Aripen, le génocide des Tziganes. Mais avant, on va écouter Françoise Cucheda, mon pote le gitan, puisque le livre se termine avec ce texte.
Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte, se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux, mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant, et dans notre bistrot, personne ne comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le doigt. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, et les joueurs de pelote s'arrêtent et puis rien. On a mal en dedans, mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait où il promène sa vie. Mais ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi, je sentais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu chercher un grand music hall, voulait l'acheter. Mais mon pote le gitan, il a refusé. Un haussement d'épaule, il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, et pourtant ce gars-là m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête, y'a du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée, et quand je l'entends, elle m'arrive de chanter. Toi, sacré gitan, qui sentait le cafard au fond. Ta musique était pleine d'espoir.
Racisme anti-tzigane, qu'on appelle l'anti-tziganisme,
oui,
qui est très spécifique. Il était tellement, et il est toujours, tellement intériorisé, tellement profond, que finalement tous ces régimes exterminateurs avaient besoin de criminaliser les Roms pour les enfermer. Ils les fabriquaient criminels.
Mmh.
Et c'est l'un des maîtres mots de ce génocide.
Oui, alors, il est fabriqué, bon, en France aussi, on les a fabriqués, mais ils ont séparé quand même les lois anti-juives des lois anti-tziganes. Puis après, finalement, c'était les mêmes lois.
Hein? Oui, en 1942-43, le sort des juifs et des tziganes est devenu légalement, pour les hautes autorités nazies, le même. Mais avant 1942, il était distinct.
Oui.
Toutes les lois discriminatoires dans l'ensemble du Troisième Reich et dans les pays alliés, par exemple la Hongrie, ne faisait pas partie du Troisième Reich, mais était alliée avec Hitler. Et donc, dans tous ces pays, effectivement, il y avait des lois spécifiques depuis l'arrivée de Hitler, depuis 1933, jusqu'à 1942. Et dans certains cas, par exemple la Hongrie, l'une des personnes qui a travaillé sur l'extermination des Roms en Hongrie, Katalin Katz, considère que les lois depuis 1920 jusqu'à 1940 contre les tziganes de Hongrie étaient tellement parfaites, à une telle maturité, que les nazis n'ont rien eu à ajouter pour pouvoir déporter les tziganes. C'est-à-dire que il y a un antécédent. Mmh. C'est pas ex nihilo. C'est pas tout d'un coup parce que c'est 1933 que, oui, il y a eu une accélération, une aggravation évidemment colossale, mais il y a des antécédents. Et ça, et là-dessus, tout le monde est d'accord.
Et alors, pourquoi cette haine?
Ben, c'est ça qu'on essaye de comprendre, parce que finalement, évidemment, comme toutes les haines, elle est irrationnelle. Mmh. Elle n'a pas de fondement. Évidemment, il n'y a aucun fondement matériel, ni concret, ni réel. C'est un fantasme, c'est une imagination. Une imagination. Donc, il y a les poètes et les littérateurs et les artistes depuis toujours qui ont été inspirés par les tziganes et donc ont porté sur eux un regard que certains jugent un peu stéréotypique, mais moi que je considère au contraire comme étant une porte ouverte pour ouvrir la voie à la cité, à ces Roms. Ils ont toujours eu un regard bienveillant, mais d'un autre côté, il y a eu les bourgeois, les policiers, les autorités, les totalitaires qui ont transformé cette altérité en haine.
Alors, cette altérité, c'est ça qu'il faut caractériser. C'était des gens qui n'étaient pas forcément sédentaires, qui bougeaient beaucoup. Est-ce que c'est ça qui dérangeait, le fait qu'ils soient dans des roulottes,
hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'une population extrêmement minoritaire. Hein. À l'heure actuelle, par exemple, il y aurait 400 000 personnes voyageurs en France. Il y aurait. Parce qu'en fait, on ne peut pas le compter. Mais on parle d'une population extrêmement minoritaire au sens où c'est la toute petite minorité, la pointe émergée de l'iceberg que voient les gens. Ils les voient lorsque, dans certains cas, dans certaines situations, tout d'un coup, il y a une vie collective, comme effectivement à Montreuil, par exemple, qui émerge, ou dans un village, où tout d'un coup, il y a trois caravanes de Roms qui se posent dans un champ, et donc on les voit. Mais tous les autres tziganes qui sont assimilés, intégrés, qui vivent dans des appartements ou dans des pavillons de banlieue, comme c'est le cas en France, dans la région parisienne actuelle, personne ne les voit. Personne ne sait qu'il s'agit de tziganes. Donc on parle d'une minuscule population. Et c'est sur cette minuscule population que les haines se focalisent. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout d'un coup un petit quelque chose qui paraît différent. Voilà.
Mais alors, du coup, et ça dans le livre, tu l'expliques bien aussi, c'est comment on fait pour repérer qui est tzigane et qui ne l'est pas. D'ailleurs, dans certains chapitres, tu dis qu'ils se sont même trompés. Voilà. Comment on fait ceux qui sont dans les roulottes, sur les routes, ok, ceux-là, on les repère. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont dans des roulottes, puisqu'il y a des forains aussi qui ne sont pas du tout manouches et qui circulent de fait que ils organisent la fête dans les villages, que ce soit un cirque ou que ce soit autre chose. Donc déjà, ce n'est pas discriminant d'être en roulotte. Ensuite, ceux qui sont dans une maison, qui ne bougent pas, ce n'est pas discriminant par rapport aux autres Allemands. Donc comment on fait pour les pour les repérer?
Ben, la vérité, on ne peut pas, on ne peut tout simplement pas distinguer et désigner avec certitude qui est tzigane et qui ne l'est pas. Voilà. Et c'est un gros problème pour faire l'histoire, parce que dans les archives, par exemple pour la Deuxième Guerre mondiale, le régime de Vichy, il y a des archives policières de l'État français qui fait la chasse aux tziganes sous le terme de nomade. Et donc tu as des archives départementales et nationales où il y a une catégorie indiquée nomade. Et là tu sais qu'il s'agit de tziganes. Là tu peux travailler. Mais sinon, pour le reste, comment savoir? Pas de religion différente, ils ont toutes les religions existantes de la Terre. Pas de croyances tumultueuses, bruyantes, pas de pratiques extravagantes, ils sont en caravane, et alors il n'y a pas que. Donc voilà, en réalité, on ne peut pas les distinguer. C'est la raison pour laquelle en France, on a beaucoup arrêté de forains qui n'étaient pas du tout tziganes pour les interner en camp de concentration, et qu'on a dû les relâcher parce qu'on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas tziganes. C'est et c'est par ailleurs, malgré tout, la chasse a été très active, puisque beaucoup de tziganes français, beaucoup de tziganes français ont acheté ou loué des maisons, puisqu'on leur a interdit le nomadisme, ils ont acheté des maisons, notamment dans le centre de la France, en Auvergne, etc. Et on les a arrêtés et déportés quand même dans leur maison. De leur maison. Donc, c'est à la délation, c'est au stéréotype, c'est à l'imagination, c'est à la désignation qu'ils sont tziganes. Mais il n'y a aucune base pour savoir qui est tzigane et qui ne l'est pas.
Et du coup, comment eux se définissent? Voilà. Qui c'est qui est Rome, tzigane,
comme citoyen, ils se définissent tous comme citoyens.
Tout à l'heure, tu nous as parlé d'une manouche française.
Oui.
Voilà. Mais pourquoi et comment, surtout, pas le pourquoi, mais comment elle se définit manouche? C'est bien en lien avec... Et là, on revient à ma question de tout à l'heure, à une généalogie, donc à une histoire.
Oui, mais c'est une histoire qui reste à hauteur de mémoire humaine, de vie humaine, c'est-à-dire parents, grands-parents. On fantasme pas des généalogies royales qui remontent au deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, cette femme était manouche, fille de manouche, petite fille de manouche. Voilà, point. Voilà. Après, on dit que... alors, de toute façon, tout le monde se pense, et heureusement pour eux et pour nous, comme citoyens. Tous sont citoyens, chacun de son pays. Citoyen anglais, citoyen italien, citoyen espagnol, citoyen français. Bon, mais nous sommes citoyens, nous sommes toutes ici des citoyennes. Nous sommes citoyennes, mais nous sommes aussi beaucoup d'autres choses, pas seulement citoyennes. Nous avons des opinions politiques, nous avons des racines géographiques, et bien eux aussi. Et nous avons aussi des traditions sociales qui nous ont construites, par exemple des lignées de métiers. Les artistes font des enfants qui seront eux-mêmes des artistes. Charlotte Gainsbourg, fille de Gainsbourg, fille d'artiste, etc. Bon. Donc, les tziganes aussi. C'est-à-dire qu'il y a une généalogie dont on se souvient à hauteur d'homme ou de femme, et qui se reproduit selon les mêmes lois sociologiques que n'importe qui, en fait. Et donc, par exemple, des manouches qui sont forains de métier ou ferrailleurs vont apprendre à leurs enfants le métier de ferrailleur et de forain. Voilà. Donc, il est important de raisonner pour les tziganes si on veut faire acte, comment dirais-je, de politique. Il est important de raisonner pour les tziganes comme pour tout le monde. Même règles sociales et sociologiques. Même pensée immatérielle. Mais absolument pareil. Absolument pareil. Il y a des distinctions? Oui, il y en a partout, chez tout le monde.
Voilà, mais j'avais besoin de comprendre, parce que quand rien n'est différent. Quelqu'un qui est dans un logement, on lui dit qu'il est tzigane et on l'embarque. Mais si la personne dit qu'elle n'est pas tzigane,
c'est arrivé.
On l'embarque quand même.
Si c'est dans la Deuxième Guerre mondiale, ils ont beau dire... Par exemple, les tziganes, les premiers qui ont été arrêtés en France, étaient porteurs du carnet de circulation.
Oui, oui.
Bon. De même que les juifs, l'étoile jaune. Eux, les tziganes, c'était le carnet de circulation. S'ils n'avaient pas ce carnet de circulation, comment on allait définir qu'ils étaient tziganes? On n'avait aucun moyen. Donc, les voisins les avaient dénoncés comme étant tziganes, donc les flics viennent les arrêter. Et... certains se sont débattus en disant « Mais moi, je ne suis pas tzigane, je ne suis pas bohémien. » Voilà. Et donc, peu ont échappé au filet de la police. Parce que la délation, les dénonciations sont surabondantes, ça on le sait, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est dans tous les pays pareil.
Voilà, on vient d'écouter Claire qui précise bien... en introduction, évidemment... à son entretien sur le génocide des tziganes, qui explique bien que c'est complètement irrationnel, quoi. Mais comme tout, le génocide des juifs ou le génocide des homosexuels voilà, c'est complètement irrationnel. On prend un petit bout de l'individu et on va dire que ça n'en fait pas un arien, par exemple, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je trouvais que j'essayais, moi, dans cette interview, qu'elle aille au fond des choses, parce que quand on a lu le livre, c'est évident, mais dans le quotidien, les gens ne comprennent pas forcément cette question-là. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Oui, une fois encore, c'est flagrant, cette espèce de capacité qu'elle a, pédagogique.
Oui,
elle avait un grand don, quoi, en fait. Oui, c'est-à-dire, moi, la première fois que j'ai entendu que je ne connaissais pas grand-chose sur le génocide de Digan, la première version de Samuel Pen, j'étais absolument fasciné par ses capacités. Et là, ça, oui.
Surtout qu'elle est allée chercher dans X pays, avec des langues différentes. Il a fallu qu'elle travaille avec des personnes qui lui permettent de comprendre toutes ces langues. Hein, parce que en France, il y a eu un ramassage des tziganes pour les exterminer, mais dans tous les pays d'Europe. Voilà, c'est quand même extraordinaire, ça. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de plus de Claire?
Déjà, je vais dire un truc, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du Camus et les libertaires, et j'ai oublié le nom de l'auteur qui a beaucoup travaillé là-dessus.
Oui.
C'est Lou Marin.
Ah bah oui, Lou Marin, bien sûr. Bien sûr, c'est Lou Marin qu'on connaît bien aussi. Oui, oui. Voilà, mais j'aimerais bien que tu nous parles un peu de... ou que tu le lises, ça, son rapport à l'anarchisme, par exemple.
Oui, je veux bien, oui. Son rapport à l'anarchisme qu'elle assumait par méfiance du grégarisme militant comme individualiste, même s'il ne l'était pas vraiment, reposait sur un acquis structurant de révolte existentielle contre l'état du monde. D'où cette éternelle jeunesse qui semblait l'habiter, son côté salmioche, provocatrice et empêcheuse de penser en rond ou au carré. D'elle qui fut une sorte de référence activiste pour ma génération militante, activiste au vrai sens, hein, parce que maintenant tout le monde est activiste, c'est activiste vraiment, quoi. C'est-à-dire qui est capable de rentrer dans l'illégalité. J'avais bien sûr entendu parler, mais c'est plus tard, bien plus tard, que la rencontre eut lieu. Elle venait de soutenir une thèse d'histoire à Lyon 2 sur la mémoire orale des mouvements libertaires à Lyon avant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons correspondu notamment sur Georges Navelle, qui lui avait accordé un entretien pour sa thèse. D'abord épistolaire, le contact avec Claire ce matin in vivo lors de ses visites à Paris. Claire aimait la discussion passionnément. Forte nature, le désaccord ne lui faisait pas peur, au contraire. Il lui arrivait même de l'attiser, un peu par jeu, beaucoup par non-conformisme. Je me souviens d'une discussion d'époque sur Emma Goldman et Louise Michel, sur lesquelles elle travaillait. Je lui avais fait part de mes réserves sur certains travers de la relecture féministe, des combats de ses compagnes du temps jadis qui, pour l'être féministe, et ô combien dans leur genre, se méfiaient comme de la peste du féminisme bourgeois et de ses impasses. Ma référence, c'était comme souvent alors l'exemple espagnol de Mujeres Libres, Femmes Libres, et de la lutte que cette organisation féminine libertaire avait dû mener contre le machisme militant anarchiste, sans rien renier des principes classistes qu'il affichait. Mais était-elle si libre que cela, ces mujeres, que leurs pères, frères, maris et compagnons tinrent résolument à distance des organismes de décision du mouvement libertaire? Ça reste à voir, disait Claire. Elle n'avait pas tort.
Et tu termines par la tranchante Claire.
Ouais. Bon, eh ben, écoute, on va passer la parole maintenant à Mohamed. Alors Mohamed, il le dit dans son interview, donc je ne vais pas en rajouter trop, mais il l'a accompagné médicalement, en tout cas jusqu'à la fin, mais il l'avait connu bien avant, et c'est surtout sur cet aspect-là que je l'ai interviewé. Bonjour Mohamed.
Bonjour Hélène.
Alors, je voudrais que tu nous parles un peu de ta rencontre avec Claire. Comment ça s'est passé?
Alors, je me rappelle très précisément, pas du jour même, mais de l'époque où je l'ai rencontrée. C'était en novembre 2015, quelques jours avant les terribles attentats du 13 novembre. Elle m'avait sollicité de la part d'amis communs dans le but d'organiser une rencontre, un colloque autour de la libre pensée arabe. Ses amis avaient participé avec elle un ou deux ans auparavant à une rencontre à Pau, dans les cercles militants anarchistes de Pau, sur les révolutions arabes 2011, 2012, Tunisie, Syrie, Libye, etc. Et à la suite de ça, Claire voulait approfondir la réflexion et voulait s'intéresser justement à cette libre pensée arabe dont elle avait, je crois, eu quelques échos. Et donc, elle m'avait sollicité, nous avions beaucoup d'amis en commun, et j'avais déjà lu des textes de Claire auparavant, je l'avais vaguement entreaperçu deux ou trois ans auparavant dans un salon du livre libertaire, mais sans vraiment l'avoir rencontré. Et donc là, cette rencontre s'est faite, et tout de suite, nous avons sympathisé, on a échangé beaucoup, et on a travaillé ensemble avec d'autres amis pour monter ce colloque sur la libre pensée arabe qui s'est tenu en juin 2016, à la Bourse du Travail, avec plusieurs intervenants dont je faisais partie. Et Claire a été vraiment un moteur, elle m'a beaucoup encouragé à faire des recherches et à m'intéresser à cette question. Et grâce à elle, j'ai pu mettre à jour tout un corpus de connaissances sur cette question dont j'avais eu quelques vents auparavant, mais qui, grâce à ses encouragements et à ses conseils tout à fait judicieux, m'ont poussé à approfondir cette recherche. Voilà. Donc cette rencontre, elle s'est faite autour de ce sujet précis. Et de là est née une amitié qui s'est renforcée par le fait que quelques mois après cette rencontre, elle a déménagé pour venir habiter à quelques centaines de mètres de chez moi dans ma rue, qui a fait qu'on pouvait se voir assez régulièrement. Elle passait prendre le thé à la maison, je passais chez elle, on échangeait des livres, des articles, des idées, des discussions. Voilà, c'est comme ça qu'est née cette amitié entre Claire et moi.
Et comment tu peux caractériser cette amitié? Elle est fondée sur quoi? Alors là, elle t'avait fait une demande, mais après, ça se construit une amitié.
Bien sûr.
Il y a un socle qui permet de faire fructifier cette amitié.
Alors, il y avait d'abord des échanges, on va dire sans prétention, des échanges intellectuels. Elle m'a beaucoup parlé de son travail sur les tziganes, auxquels je connaissais vraiment pas grand-chose. Hein, et elle m'a fait connaître et elle m'a apporté beaucoup sur cette question-là. On parlait aussi beaucoup de féminisme. Et elle avait des positions féministes. C'était, on peut le dire, une féministe un peu historique, hein, dans la mesure où elle se rattachait à ce deuxième mouvement
la deuxième vague.
La deuxième vague, merci, du mouvement féministe. Et elle m'a raconté donc ses rencontres avec Françoise Daubonne. Elle m'a parlé un petit peu du mouvement de libération des femmes, de sa naissance, de ce que c'était. Donc il y avait ces échanges intellectuels. Moi, je lui parlais aussi de mon parcours personnel, professionnel, et de mes engagements libertaires et anarchistes, et de mon travail à Radio Libertaire, entre autres. Et il y avait aussi chez elle quelque chose qui était qu'on pouvait percevoir si on y faisait attention. C'était à la fois une grande force de caractère, mais aussi une certaine... c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas, et ça, c'est très personnel, mais je ressentais chez elle une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Alors, je connaissais pas, à ce moment-là, son livre d'entretien avec Mimose, donc Claire Lauragé,
et donc son histoire.
Et je l'ai appris que fur et à mesure, et petit à petit. Elle était à la fois très pudique par rapport à ça, mais en même temps, quand il lui arrivait d'en parler... Elle en parlait naturellement, très clairement, sans aucune, sans rancœur, sans aménité, avec une forme de, oui, à la fois de pudeur, mais aussi de, elle arrivait à faire passer des sentiments qui faisaient que je la sentais vraiment très, très proche. Et c'est ça en fait, cette vulnérabilité qui en même temps la rendait humaine, sympathique. Enfin, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. J'avais l'affection que j'avais pour elle, malgré parfois quelques différends que nous pouvions avoir sur certains sujets où on n'était pas forcément tout à fait d'accord, mais au moins on pouvait en discuter, on pouvait échanger. Elle m'écoutait beaucoup. Je crois qu'elle avait une attention à ce que je disais, mais je crois que ça, c'est vrai pour tous les gens qui la côtoyaient, hein, c'est pas uniquement avec moi. Mais elle m'écoutait, elle savait répondre aux questions et aux objections que je pouvais lui faire, avec toujours beaucoup d'assurance et de tranquillité. Et quand parfois je sentais qu'on abordait un sujet qui lui semblait pénible ou difficile, je remarquais tout de suite que il fallait la laisser tranquille pour ne pas la heurter. Donc il y avait cette humanité qui était très forte chez elle et qui m'a beaucoup touché et qui s'est confirmée lorsque je l'ai accompagnée donc dans ces derniers moments. Hein.
Ce que tu viens de dire là, c'est que à la fois elle est dans l'écoute de l'autre et à la fois elle donne beaucoup à l'autre.
Oui, c'est ça, exactement. Ça a toujours été avec elle une relation à double sens. Par exemple, quand elle venait à la maison, elle aimait beaucoup rencontrer mes enfants, en particulier ma fille Alice, qui était bien plus présente à la maison que mes garçons. Et elle discutait beaucoup avec ma fille, puis avec ma compagne aussi, qui s'appelle Claire comme elle. Et elle aimait beaucoup échanger sur des sujets tout à fait banals. Hein. On ne parlait pas de politique, on ne parlait pas d'engagement, de féminisme ou d'anarchisme. Non, c'était sur les sujets du quotidien, de la vie de tous les jours, sur les rapports qu'elle pouvait avoir elle-même avec sa propre famille. Et c'était vraiment une relation, une vraie relation amicale et riche et qui allait dans les deux sens. C'était vraiment ça qui était marquant chez elle et qui moi, m'a le plus touché. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque elle est tombée malade, elle s'est adressée à moi en tant qu'ami, mais aussi en tant que médecin. J'ai essayé au début de la conseiller, de l'orienter, et puis elle m'a demandé de l'accompagner et d'être à ses côtés dans ses moments les plus difficiles. Et on a passé vraiment des moments très très forts. Alors, on a été plusieurs à l'entourer lorsqu'elle est tombée malade, et ensuite lorsqu'elle a été hospitalisée. Et ce qui nous a vraiment tous marqué et frappé, et là je voudrais vraiment en quelques mots le dire pour nos auditeurs, mais c'était sa force de caractère, son courage et sa clairvoyance face à la maladie et à l'inéluctable. Et là j'ai vu vraiment en œuvre ce qui est pour moi je vais peut-être utiliser des grands mots, j'en suis un peu désolé, mais ce qui est vraiment une attitude anarchiste, c'est-à-dire être au clair et savoir affirmer ses propres choix, décider librement de son parcours de fin de vie, être en pleine possession tant que la maladie et que la douleur le permettent, en pleine possession de ses moyens, et de pouvoir avoir une relation avec les autres, et en particulier avec le corps médical, une relation une relation saine, claire, et une relation libre, c'est ça. Elle a vraiment manifesté dans ces derniers dans ces dernières semaines, tant que la douleur le permettait, et tant que la maladie lui a laissé le répit, elle a vraiment manifesté une liberté de choix et de décision qui nous ont vraiment tous et toutes impressionnés, et nous a, elle qui n'était vraiment pas une donneuse de leçons, elle nous a donné une leçon très forte, une leçon de vie. Et comme je l'ai dit dans l'hommage que nous lui avons rendu au cours de ses obsèques, c'était une petite femme, mais c'était une très grande dame.
Bah écoute, c'est une très belle conclusion. Je te remercie.
Je t'en prie, merci Hélène.
Je crois que tu donnes à entendre, c'est vrai, une forte amitié. Et puis, de dire que Claire, qui a eu une vie chaotique, très chaotique, hein, que ce soit amoureuse, que ce soit en termes de liberté,
oui, bien sûr.
Voilà, très très chaotique. Finalement, elle a terminé sa vie avec ce mot de liberté qu'elle incarnait.
Ouais, tout à fait. Ce que je disais aussi, c'est qu'elle a vécu libre et enragée, et elle est partie comme elle a vécu.
Merci à toi.
Merci Hélène.
Voilà, c'était l'interview de Mohamed dans la rue, au moment où il y a eu cette rencontre de ses amis, samedi 19 octobre à 8 Impasse Crozatier, à le DMP, 8 Impasse Crozatier dans le 12e. Et on avait là, en présence, beaucoup de Lyonnais.
Oui.
Qui nous ont parlé de Claire sur ce qu'elle a vécu à Lyon, et puis voilà, un peu moins de Parisiens pour en parler, même si ils étaient quand même dans la salle. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Freddy?
Ben déjà, oui, c'était... J'ai ressenti la même chose... À l'incinération,
oui,
de Claire, et après au temps qu'on a passé ensemble et tout ça, il y a quelque chose je pense qu'on a quelque chose de particulier par rapport à la perte, c'est-à-dire qu'on est convaincu que nos morts valent beaucoup mieux que beaucoup de vivants et en fait ils sont jamais vraiment morts, quoi. C'est-à-dire que ça continue tout le temps. Là, c'était... Moi, je suis arrivé tard rue Crozatier. Mais j'ai discuté beaucoup, notamment avec les Lyonnais. Donc, sa première phalange, là.
Ouais.
Il y avait... Et oui, bon, il y a l'émotion, mais en même temps... Elle est morte, mais on en parle comme on en parlait quand elle était vivante. C'est-à-dire, on est capable de dire « Ah oui, putain, elle pouvait être chiante, mais elle était formidable, quoi. » Ouais. Et ça, je crois que c'est un peu... Mon père, qui est un vieil anarchiste espagnol, quand il allait aux enterrements, moi j'étais ado à l'époque, donc je connaissais certaines personnes, j'y allais, tout ça. Mon père, il disait, j'adore les enterrements, en fait. Parce qu'on dit au revoir à un copain, mais en fait, on en rencontre plein d'autres qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et tout ça, et que... Oui, il y a cette idée, en fait, que ça continue, quoi. Et Claire pensait ça, quoi. Claire pensait ça. J'ai assisté à pas mal d'enterrements avec Claire et elle pensait ça.
En tout cas, samedi, les amis qui étaient là, qu'ils soient anarchistes, qu'ils soient féministes, oui, qu'ils soient lyonnais, qu'ils soient parisiens ou d'ailleurs, en tout cas, tous n'étaient pas tristes.
Non.
Hein, avaient envie d'en parler avec beaucoup de. Je sais pas, de sympathie. Et puis, évidemment, on a terminé avec un verre de vin.
Oui, hein, bah bien sûr.
On pouvait guère faire autrement. Bon, ben, Freddy, je te remercie beaucoup.
Ben moi, je te remercie parce que, en fait, tu as fait un travail formidable de montage, quoi. Vraiment, tout ce que tu as choisi était formidable, quoi.
Merci à toi. Et puis, on va terminer par Mathilde, guerrière de lumière. Et c'est le mot lumière, évidemment, qui convient le plus à Claire Osias.
Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. La nuit, on colle, le jour on casse du troll. Dans la vraie vie, sur les réseaux, on est prêt à risquer notre peau. Violeur, prends peur, on sait que c'est toi l'agresseur. Qu'est-ce que tu crois? Nous on te voit, nous on te lâchera pas. Parce que nous tu sais, on n'est pas des fissages, pas plus que des frivolages. Nous on est juste des meufs sûres, sûres d'avoir des droits. Au moins je sais même que toi, tant qu'on nous les donnera pas. Nous oui on les arrachera à monsieur patriarcat. Celui des hommes qui dominent, et puis de la bite qui culmine. En haut de la pyramide, de ton sexisme assumé. De mecs aux privilégiés, qui croient pouvoir nous dompter. Sauf que tu sais, nous on est des guerriers de lumière forte fière. Du mal en rut, sur le pavé, dans les métros, pas de répit pour les salauds. Le jour, on marche, dégagez patriarche. Soyez pas surpris, c'est la fin du crédit, le temps des femmes. C'est aujourd'hui, parce que nous mérite. Oui, non, on est féministe, oui, féministe radical. Après tout, c'est bien normal, on fait juste que se défendre du monstre ultra-libéral. Comment pas devenir misandre dans ce monde liberticide, dans ce monde féminicide, qui flingue notre dignité à chaque occasion trouvée, qui croit pouvoir nous soumettre, qui croit pouvoir nous la mettre, qui croit pouvoir nous briser. Sauf que tu sais, nous on est, nous on est, nous on est, nous on est. Des
peace out.
Voilà, les guerrières de lumière, Mathilde, c'était une fémage, dit Tiffen Day, un hommage, disent d'autres. Enfin bref, on a parlé de Claire Osias, de cette anarchie vagabonde, et de Claire, la rebelle libre et libertaire. Quelques infos, au mois de novembre, au Théâtre de Belleville, il y a, donc, Théâtre de Belleville, c'est 94 boulevard du Temple, dans le 11e. Blue Room, question de genre et féminisme. Jusqu'au 30 novembre, donc c'est aussi tout le mois de novembre, à la Manufacture des Abbesses, 7 rue Véron, à Paris, 18e, Frida. Et là, on a un téléphone, si vous voulez réserver, 01 42 33 42 03. Et puis, nous parlons aussi du collectif Les Sorores. Nous les avions invités il y a 3 semaines de cela. Corps vécu, vélo et danse. C'est une exposition qui est accueillie à la Maison de la Conversation, 10 rue Maurice Grimaud, dans le 18e. Et ça, c'est jusqu'à la fin octobre. Donc, il reste encore quelques jours. Donc, corps vécu, vélo et danse. Je rappelle que le collectif Les Sorores, c'est 6 jeunes, jeunes, elles sont plus jeunes que moi. Donc, on va dire 6 plasticiennes. Mais on va pas dire jeunes. 6 plasticiennes, enfin, elles sont quand même jeunes. qui prennent un thème là, de temps en temps, et qui font des expos collectives. Mais le reste du temps, elles travaillent sur le thème. Ça leur apporte une sororité de pensée et de création. Hein. Par ailleurs, elles sont chacune avec leur parcours de peinture ou leur parcours plastique individuel. Le temps des cerises. Voilà, le temps des cerises, c'est un petit cadeau que m'avait fait Wally Russell. Et qu'on a écouté au début de Radio Libertaire de nombreuses fois, mais nous, allez, on s'en lasse pas. À la librairie Publico, donc toujours 145 rue Amelot, Paris, 11e métro République, Aubercan, Fille du Calvaire. Je rappelle qu'elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi, donc de 13h à 19h30. Du mardi au dimanche et le samedi à partir de 10h. On y trouve des livres et plein d'autres choses, mais ça, vous en doutez, c'est une librairie. Mais il y a aussi des animations. Le dimanche 27 octobre, donc c'est dimanche prochain, à 15h30, il y a une causerie populaire libertaire intitulée « Liberté en danger ». Le jeudi 7 novembre à 19h, Christian Huette, Dulcimer, et c'est Dulcimer en concert libre. Je crois qu'il utilise plusieurs Dulcimer. Et le dimanche 17 novembre à 16h, présentation déclamée et chantée de la chanson d'un gars qui a mal tourné, de Gaston Couté. Et là, c'est à partir du travail fait par les éditions Walada. Et ça sera donc avec Bruno Daraki et Robert Vuitton pour les 10 heures. Fanfan et Marie Volta pour les chanteuses. Fanfan étant l'éditrice des éditions Walada. La prochaine émission, ce sera le mercredi 30 octobre. Et nous recevrons Marie Moinard pour La Française doit voter, les combats de Louise Weiss, édition Marabule. Et oui, à Radio Libertaire, on peut aussi parler du droit de vote des femmes et des immigrés et de tous ceux qui n'ont pas le droit de vote. Parce que tant qu'on n'a pas le droit de vote, eh bien, on n'existe pas dans un certain nombre de droits. Et de toute façon, le droit de vote fait qu'on peut l'utiliser ou pas l'utiliser. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une très belle bande dessinée. La Française doit voter, les combats de Louise Weiss. Et on ne connaît pas, tout le monde ne connaît pas Louise Weiss. Et ça vaut vraiment le coup d'écouter Marie Moinard, qui a travaillé avec Marine Tumeler pour cet album. On vous dit bonsoir et féministe tant qu'il le faudra. Et on termine avec Estelle qui nous interprète l'hymne des femmes sur une musique de Sylvestre.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire. Debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout.